Un texte de Marie de Pucet, extrait de Là où le soleil se tait, POL 1998. Immobilité. Il était une fois une petite fille, des yeux très grands, d'un calme au bord de l'épouvante comme ceux de beaucoup de petites filles sur les photos, des cheveux noirs qu'on devine beaux, tirés en arrière ou mal frisés, au gré des fantaisies pas très heureuses de sa mère, de grandes oreilles visibles à ce moment-là. Les yeux sont très ouverts, la bouche bien dessinée et fermée sur un silence durable. Des matins jusqu'à l'âge de 8 ans, ce chiffre est depuis toujours dans sa tête comme celui de la fin, d'un bonheur immédiat, une sorte de coïncidence d'un bond avec le jour. Jusqu'à l'âge de 8 ans, quand on n'est pas un enfant torturé par une des formes que prend la misère, on se réveille dans le jour. On ne connaît pas le goût de crasse de l'existence. Elle allait sauter dehors, jouer dans le chemin qui mène à la prairie, faire des acrobaties avec les copains en s'enroulant autour des barrières, fabriquer des maisons avec des branches et de la mousse. Elle garde un léger sentiment d'insatisfaction de ces maisons. Mais il y avait la vraie maison petite avec les roses pompons du grillage, le jardin derrière, plein d'iris, la buanderie et les cabinets en bois près du sureau, et tout de suite le canal et la rivière. Il y avait une seule porte à la maison et sur le seuil, la petite fille s'asseyait des heures au soleil. Sa mère, derrière elle, s'activait à la cuisine et de l'ombre lui parlait, soleil de sa parole. Elle lui donnait le seuil qu'elle cherchera ensuite toujours, baigné de soleil, appuyé à l'ombre vivante, un seuil d'où découper en douceur le monde. Plus tard, elle trouvera l'équivalent dans les peintures moyenâgeuses représentant des chambres de saints. Une petite sainte prie ou cou. La lumière dorée passe par la fenêtre, réchauffe son prie-dieu et ses nattes blondes. Et par la fenêtre, on peut voir bien rangés les moissonneurs, les arbres, la campagne douillette, pleine d'activités ordonnées que la petite sainte peut, si elle le veut, regarder. Le confort de Dieu, voilà ce que lui donnait sa mère. Que ça finisse mal faisait partie de la beauté de la lumière. La petite fille ne le savait pas. Les interdictions aussi magiques délimitant le monde. Ne descends pas le chemin qui va vers le canal. Les garçons qui pouvaient être sournois, jouer au bord, et la mort se cacher au fond de l'eau. Des enfants d'éclusiers, poussés par le vent, s'y noyaient. La petite fille ne descendait pas. Elle s'arrêtait, souvent, à regarder ce chemin qui allait vers le mal. Elle était sage, souffrait aussi énormément de ne pas avoir de sein, de se baigner en simple culotte blanche quand les autres filles avaient des deux pièces, même si elles n'avaient pas de sein. Ainsi manqua-t-elle son véritable amour, le matelassier qui se déplaçait de village en village et travaillait 8 jours dans le chemin de terre qui menait à sa maison. Le jeune homme avait des gestes d'une perfection inconnue, un travail des mains qui laissait le corps droit, libre dans le soleil. Il avait des cheveux blonds. Quand elle revenait de la baignade à moitié vêtue comme dans les mauvais rêves, elle ne pouvait pas disparaître. Il ne se moquait pas. Il la regardait avec un sourire très doux qui disait « Tu seras belle plus tard, tant pis pour nous ». Elle comprenait la nostalgie, le rire dans les yeux, la tendresse perdue, et elle pleurait. Trop tôt, trop tard, elle devinait que c'était pareil. Elle souffrait aussi d'en savoir bien trop sur la mort. Le soir, en se cachant, prière sur le tapis au pied du lit. « Mon Dieu, faites que je croie en vous ». Et cette comptabilité incessante, déchirante, où elle savait quelle part elle prenait déjà à l'organisation de la mort. La grand-mère d'abord serait prise, logique. Ensuite qui ? Elle les passait en revue. Père, mère, petit frère malade, les larmes aux yeux, mais la prière ensuite désespérément sèche. Plus tard, d'un coup, elle fut belle, de ce genre de beauté faisant autour d'elle le silence. Les ouvriers du haut de leurs échafaudages osaient lui dire des choses gaies. Un jour, un jeune homme à bicyclette qui la regardait tomba. La rue, après un instant, éclata d'un rire magnifique. Mais la plupart du temps, elle n'entendait que du silence. Son corps était pris dans un rêve, celui des autres, dont personne n'avait le courage de la sortir. Comme ces jeunes filles dans les mosaïques dont les yeux immenses renoncent à vous appeler parce qu'ils sont prisonniers du vernis qui recouvre, sans différence d'âme, la couronne tressée sur les cheveux noirs. Jeune fille lisse, interdite. Pourtant, il faut marcher sur la terre hostile des vivants et chaque pas titubant, lourd, de ce savoir inadéquat au rêve, déçoit les amateurs de mosaïques. Quelle gourde cette fille, entendait-elle dans les yeux des gens, et elle marchait de plus en plus mal. Ensuite, demeuraient les seuils d'où elle regardait sa mère s'occuper des fleurs. Avait grandi la honte d'avoir un corps en relief, taille, sein et cheveux noirs. Elle enviait toutes les jeunes filles blondes dont les cheveux étaient traversés par la lumière et qui semblaient bouger, si légères, dans l'étoffe même des peintures, des légendes d'où elle venait. Était restée l'interdiction de prendre le chemin du bas. les empêchements, le malheur de la jeunesse, elle les connut, d'autant plus fort qu'était forte l'interdiction devenue silencieuse. À 16 ans, un jour, à table, elle dit « Je ne vous demande pas d'aller jouer le soir avec les garçons, mais le droit solennel d'être dispensé dorénavant de manger de la soupe. Fini les soupes, et si possible, les haricots verts. » Ce lui fut accordé. Et le monde pour elle se réduisit au bonheur du jardin de la parole de sa mère qui s'enroulait autour des heures. Traduction arbitraire, violente et enchantée. Un de ses amis d'école, maussade et catholique, disait en bougonnant « Ta mère est une présocratique. » Sa mère lui disait, au garçon maussade, « Écoutez, Bouisque, décidez-vous, devenez homosexuel ou missionnaire, mais cessez de traîner en boudant comme ça. » Sans doute devint-il, sous une forme ou une autre, les deux. Elle n'est plus très sûre maintenant que sa mère mesurait la portée de ses paroles. Mais elle recueillait les oiseaux et les enfants aux ailes abîmées, les soignait puis les engueulait. Elle parlait des heures à une pie qu'elle appelait la pie, comme si elle avait lu Samuel Beckett qui appelle ses textes « texte ». Pour la pie, elle prenait une voix pointue très haute que comprennent les oiseaux. Aux corbeaux torturés, elle disait « Mon garçon !» Aux enfants, elle parlait d'une voix claire à l'articulation parfaite qui donnait à sa générosité la fraîcheur glacée d'une source. À un gosse qui avait essayé de se tuer par découragement, puis s'était traîné dans le ruisseau jusqu'à la maison, il était arrivé mouillé, les cheveux collés comme un vilain oiseau, elle avait dit, après l'avoir frotté, réchauffé à la cheminée, « Vous êtes idiot, Pierre, de penser que vous êtes le seul à avoir un père pauvre, alcoolique et à vous masturber. » Elle avait des associations d'idées étonnantes. « Installez-vous à la maison et travaillez un peu pour le bac. » Pour son mariage, elle lui offrit le litré. La petite fille entendit parler de lui à travers les années par les amis. Les nouvelles parvenaient de pays lointains où il était devenu ambassadeur. Il recueillit les amis en perdition puis demandait des nouvelles d'elle, celle qui avait inventé sa vie. Quant aux autres garçons que ceux du jardin, il lui fallut, à la petite fille, après de longues et horribles études, aller les retrouver à l'ombre d'un autre continent, à l'abri de la clarté légèrement dévastatrice de sa mère. Mais n'était-il pas, comme le disait le matelassier, trop tôt ou trop tard? Une année après, quand elle revint, adoucie, émue de retrouver le gris, la petitesse de son pays, les tulipes et les prunus dans la lumière du jardin, sa mère mourut. Commença à mourir. Cela donna seulement le temps à sa fille de lui faire entendre qu'elle l'aimait autant qu'il est possible. Ce que cela donna à sa mère est une question ouverte. Alors le monde fut vide, débarrassé de sa grandeur. Elle se rappelle ce vers de Ronsard qu'elle se répétait hébétée. Nous sommes tous issus de la grandeur de toi. Il fallait survivre comme dans une salle d'attente d'hôpital avec des odeurs d'éther proches. L'histoire de la petite fille s'épuisait, là. Plus tard, bien plus tard, elle recommença à arroser les fleurs dans le soir. C'était un geste doux. Elle continua, sur le chemin du travail, à se tenir, comme le lui avaient demandé son père et sa mère, droite. Ce qui fit croire aux gens qu'elle était grande. Un extrait de « Là où le soleil se tait » de Marie de Pucé, POL 1998.